de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma. Aujourd'hui, nous allons entendre une réalisatrice, elle est québécoise. J'avais pu la rencontrer à Cannes pour son film Amour Apocalypse. Et puis sinon, nous allons vous parler de films qui sont actuellement dans les salles. Toi, Sophia, c'est un film plutôt attendu.
Oui, Vincent, je vais vous parler du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas.
Et puis toi, c'est un film qui n'est pas dans les salles et un autre qui l'est.
Oui, c'est ça. Alors, qui n'est pas dans les salles, c'est The Rip. Et celui qui est dans les salles, c'est le film d'animation Olivia.
Et puis moi, je vous parlerai de Amour Apocalypse, moi, un tout petit peu. Mais surtout, avec plaisir, de 28 ans plus tard, film d'infecté. Mais nous allons commencer avec un film qui marche plutôt bien. C'est l'affaire Bojalski avec Reda Kateb, un inventeur muselé qui devient un orfèvre de la fausse monnaie.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais vous arrêter.
Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de moi-même.
Non. Vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent.
Après La Syndicaliste avec Isabelle Huppert en 2022, Jean-Paul Salomé s'attache à un biopic captivant avec l'affaire Bojarski, du nom d'un faussaire qui sévit durant la Seconde Guerre mondiale et bien après. Un homme dont le talent était tel qu'il était surnommé le Cézanne de la fausse monnaie, un homme qui a mis en boule la Banque de France, différents gouvernements et un commissaire de police chargé de l'arrêter, d'où le titre de l'affaire. Alors il ne s'agit pas simplement d'un biopic, mais donc d'une enquête sur les agissements d'un homme et sur ce qui le poussait intimement à fabriquer de la fausse monnaie.
Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité.
Liberté, égalité, fraternité.
On ne pourra pas vous aider éternellement.
Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison, ça te dirait?
Papa, Yann est ingénieur.
Comment tu t'appelles?
Yann Bojarski.
Il paraît que t'as du talent, Yann.
5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
Bouge pas!
Alors avec l'accent, ça se dit d'ailleurs Bojarski, hein, comme on l'entend. Il s'agit d'un destin hors du commun, celui donc d'un Polonais qui s'est échappé d'un camp allemand en Hongrie pour arriver en France. Ingénieur de formation, il n'a jamais pu trouver de travail à la hauteur de ses compétences, mais celles-ci sont entrevues par la pègre qui lui offre une petite issue. À la fin de la guerre, marié, il se lance donc dans la conception d'objets qui ne trouveront jamais leurs consommateurs. Faute de papier, il ne peut déposer de brevet. Alors on s'amuse d'ailleurs de découvrir des inventions que l'on utilise quotidiennement aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un gimmick du film, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le film avance, il y a Bojarski qui montre, tiens, j'ai inventé soit l'expresso, soit le stylo bic, et ainsi de suite. C'est pour gagner de l'argent et faire vivre sa famille, donc qu'il décide de fabriquer de la fausse monnaie. Son talent est redoutable et sa technique pour dissiper l'argent fait ses preuves car non seulement il se cache de ses proches mais aussi de la police.
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte.
À la vôtre, monsieur Bojarski.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Règle numéro 3, la discrétion.
Cet amoureux de la copie parfaite, interprété avec justesse par Reda Kateb, aura un ennemi, le commissaire Mattei, Bastien Bouillon, que l'on voit décidément partout. Mais son véritable adversaire sera aussi sa propre personnalité. Souffrant d'un besoin de reconnaissance de son talent, Bojarski va finir par se trahir lui-même. Ce long métrage, tout en maîtrise, accompagne son personnage, guide le spectateur dans les rouages du faux monnayage et glisse aussi le constat d'une France où il vaut mieux avoir un nom français que polonais, peu importe le talent. Sarah Giraudeau, épouse libre et dévouée à son mari jusqu'à la découverte de ses secrets, parvient elle aussi à éclairer les zones d'ombre de ce personnage qui cherche sans cesse à s'approcher de l'authentique. L'affaire Bojarski ou Bojarski est actuellement en salle. Le mage du Kremlin plonge au cœur de la Russie post-soviétique où un stratège des discours et de l'image devient un conseiller influent puis se retire avant de tout révéler.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir.
Vadim Baranov.
était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin.
Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur.
Le Mage du Kremlin promet un thriller politique palpitant. On en ressort plutôt avec un cours magistral, alors très bien documenté, très bien interprété, mais franchement sage. Intéressant, oui, vibrant, beaucoup moins. Le film sélectionné à la Mostra de Venise marque le retour d'Olivier Assayas sur le terrain politique, hein, lui qui a signé Carlos, L'heure d'été ou encore Personal Shopper. Il adapte ici le roman Événement de Giuliano da Empoli, prix de littérature, immense succès critique, véritable plongée dans les arcanes du pouvoir russe. Un matériau dense, intellectuel, corrosif sur le papier. À l'écran, Assayas convoque un casting impressionnant, Jude Law en Vladimir Vladimirovitch Poutine, Paul Dano en Vadim Baranov, son conseiller de l'ombre, et puis on a aussi Alicia Vikander et Jeffrey Wright. L'ambition est importante et claire, raconter 30 ans d'histoire russe à travers la fabrique d'un homme et d'un régime.
Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Il est jeune, sportif. C'est un espion du KGB. Vladimir Poutine.
Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir.
Le film s'ouvre sur Roland, interprété par Jeffrey Wright, un universitaire et journaliste américain qui se rend en Russie pour travailler sur « Nous autres », le roman dystopique d'Evgeny Zamyatin, publié dans les années 20. C'est ce livre qui l'amène jusqu'à la demeure isolée de Vadim Baranov, que joue Paul Dano, ancien conseiller du Kremlin retiré des affaires. Après avoir rapidement évoqué Zamyatin et son roman, hein, prétexte à cette rencontre, Baranov entame une longue confession. Le récit change alors de focale. À travers ses souvenirs se déploie une fresque de près de 30 ans d'histoire russe, de la chute de l'Union soviétique à l'annexion de la Crimée. On découvre le parcours de Baranov, hein, d'abord artiste, metteur en scène, puis producteur de télévision, et enfin stratège politique central, devenu l'un des architectes de l'ascension de Vladimir Poutine, avant d'être progressivement écarté par le système qu'il a contribué à bâtir.
Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit.
Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres.
Sur le fond, Le Mage du Kremlin est un film passionnant. Il éclaire avec une grande clarté le fonctionnement d'un régime autoritaire moderne fondé sur la peur, le ressentiment post-soviétique et la manipulation permanente. On comprend beaucoup de choses. Le personnage de Baranov n'est pas qu'une figure de fiction, hein. Il est directement inspiré de Vladislav Surkov, ancien conseiller clé de Vladimir Poutine, idéologue de la démocratie souveraine et de la verticale du pouvoir. Alors Surkov est aussi l'un des architectes, hein, des stratégies de manipulation politique et médiatique. Pensé pour désorienter les sociétés bien au-delà des frontières russes, hein, notamment via les réseaux sociaux. Son rôle dans la justification des opérations russes en Ukraine à partir de 2014 fait de Baranov un cerveau politique et pas seulement un communicant, et questionne, hein, quelle est la responsabilité personnelle d'un conseiller lorsque ses idées deviennent des armes. Une interrogation que le film met en lumière, hein, notamment grâce au personnage de Xenia, interprété par Alicia Vikander, léger contrepoids moral, hein, du récit. Sur la forme, en revanche, le film se piège dans un dispositif très didactique. Hein. Assayas reste collé au livre avec une succession de dialogues explicatifs et de voix off qui finissent par étouffer toute tension dramatique. La mise en scène est sobre, presque scolaire, sans images fortes, et Baranov reste peu incarné émotionnellement. On comprend ce qu'il fait, rarement qui il est. Autre limite majeure, la langue. Tout le monde parle un anglais très américain, hein, affublé d'un accent russe plus ou moins convaincant. Et dans un film ancré dans l'histoire russe, le choix est déroutant et trahit un objet pensé pour un public occidental, avec une grammaire très hollywoodienne et même un petit côté Forrest Gump, avec un homme qui retraverse les grands événements de son époque en les racontant après coup. Il manque plus que la petite boîte de chocolat. Assayas assume ses contraintes, hein, liées au financement et à l'impossibilité de tourner en Russie aujourd'hui, mais le résultat reste très pédagogique et surtout beaucoup moins corrosif que d'autres œuvres récentes sur la fabrique des monstres politiques, comme le bien plus frontal The Apprentice.
Tu mets ta magie noire au service du pouvoir ?
C'est un jeu. La politique est le seul jeu qui mérite d'être joué.
Comme c'est triste.
Les Américains me traitent comme si j'étais le président de la Finlande.
Que veux-tu que je fasse ?
Le Mage du Kremlin est donc un film utile, on pourrait dire important même. Hein. Il éclaire la continuité idéologique d'un monde où la guerre froide ne s'est jamais vraiment arrêtée, elle s'est transformée. Mais c'est aussi un film froid et bavard qui confond parfois tension politique et accumulation de discours. En sortant de la salle, on entend beaucoup de « oh oui, bah, c'est intéressant ». Et c'est sans doute le verdict le plus juste. Hein. Un film plutôt glaçant, à voir pour comprendre, pas forcément pour vibrer.
Eh bien, ce film, Le Mage du Kremlin, est en salle depuis le 21 janvier. On change complètement de sujet. Nous allons parler d'Olivia, une petite fillette de 12 ans, dans un film d'animation.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle, qui vivait une vie normale avec son petit frère Tim et sa mère actrice, va devoir s'habituer à un environnement plus modeste. Alors, peinant à joindre les deux bouts, hein, sa mère est expulsée et tous ensemble, ils vont peiner à trouver un logement social dans un quartier défavorisé. À la difficulté de voir ses habitudes et son mode de vie voler en éclats, elle va devoir également prendre tout particulièrement soin de Tim parce que sa mère, bouleversée par sa mauvaise fortune, sombre lentement mais sûrement dans une dépression qui la rend incapable d'assurer son rôle le plus important, celui de mère. Alors tout semble aller de mal en pis, mais c'est sans compter sur la vie qui peut réserver des surprises positives et aussi à l'optimisme débordant d'Olivia et en sa foi des lendemains qui chantent. Sa rencontre avec des voisins chaleureux va transformer son monde en un vrai film d'aventure au sens littéral.
Salut, je m'appelle Olivia. J'habite à Barcelone avec ma maman et mon petit frère Tim. Tout allait bien jusqu'à ce que tout bascule.
Hein ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ils vont nous expulser de la maison.
Et moi, je suis tombée de très haut.
Car oui, il y a une condition pour entretenir l'optimisme, un petit peu de mensonge pour jeter des paillettes aux yeux de Tim. Olivia lui fait croire que les événements malheureux qu'il subit sont des illusions, car ils sont issus d'un film qu'Olivia tourne pour les besoins de sa mère. Mais à l'image du personnage de Roberto Benigni dans La vie est belle, il n'est pas toujours facile de travestir la réalité pour qu'un enfant garde son innocence face aux difficultés de la vie. Et même pour Olivia, c'est parfois compliqué, et ses doutes et craintes se manifestent par la matérialisation d'une faille qui apparaît lors de tremblements de terre métaphoriques. Alors tomber dans ces failles qui se creusent, c'est chuter tout au fond du trou et c'est impossible pour elle. Tout du moins, c'est impossible tant qu'elle pourra compter sur le soutien de ses nouveaux amis qui vont l'aider à avoir la vie d'une autre manière. Alors si Olivia est un premier film, c'est l'aboutissement d'une carrière riche de plus de 20 années au service de la stop motion pour Irene Ibora Rizzo, qui adapte ici le roman « La vie est un film » de Maite Carranza. Lui-même inspiré par ce qu'il s'est passé en Espagne en 2008 suite à la crise économique qui a ébranlé bon nombre de familles.
En plus, on n'a pas d'électricité.
Et ? Tu connais pas le système D ?
Mais même quand tout s'écroule, on peut toujours se relever. Grâce à l'amitié,
le plus important pour moi, c'est qu'on soit ensemble tous les deux.
Je vais trouver une solution.
La solidarité et grâce à la force de notre imagination.
Ouais, on s'est fait plein de copains et on est super heureux.
Et si la vraie magie, c'était de continuer à rêver malgré tout. Maxicala !
Olivia s'inscrit dans la lignée d'un film d'animation comme Ma vie de courgette, avec toutefois une charte graphique un peu plus jolie. Il est question d'aborder frontalement les troubles des enfants, victimes d'un monde cruel qui n'hésite pas à avancer sans eux, et qui n'a que faire de leur malheur lorsqu'ils traversent les années les plus décisives quant à leur développement et leur solidité intellectuelle et affective. Il y aurait presque aussi un côté Amblin Entertainment dans ces enfants qui refusent la fatalité du haut de leur innocence et devant se retrousser les manches pour pallier aux erreurs ou malversations des adultes déficitaires ou cupides. La métaphore fantastique permet à tous les publics de ne pas se heurter à l'aspect cru d'un film social, ce qu'il est, et de faire comprendre aux plus jeunes les aspects les moins heureux du monde moderne et les tragédies qui peuvent faire éclater le quotidien. Alors formellement, le choix même de la stop motion permet d'atténuer le réel et l'aspect sordide de la pauvreté infantile et d'y injecter une tendresse typique de l'enfance. Pari réussi pour Olivia, pertinent sur tous les points et belle leçon de vie.
Olivia, film donc d'animation, est en salle depuis le 21 janvier. Amour Apocalypse suit Adam, un écho anxieux dont une rencontre inattendue bouleverse la vie et les cœurs. C'est l'interview de cette émission.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Adam a la quarantaine, il est célibataire, il est propriétaire d'un chenil et une partie de son travail consiste à promener donc des chiens. Adam est angoissé, le monde tel qu'il va avec son climat déréglé le surmène. Il n'est pas tranquille. Pour se calmer, il achète une lampe de luminothérapie. En contactant le SAV, il tombe sur une voix réconfortante, celle de Tina, qu'il va avoir envie de rencontrer. Voilà une comédie romantique mais légèrement contrariée, d'autant plus que la Tina vit un peu plus loin que le Québec et a une petite famille. Le film de la québécoise Anne Aymon n'a rien de facile, oscillant entre la comédie flegmatique, le tragique climatique et le romantisme tordu. Mais cela fait tout de même son petit effet. Hein. Tous les personnages de ce long métrage, Adam en premier lieu, sont attachants et c'est avec l'espoir de se réunir, de vivre une histoire que bat le cœur du film face à la brutalité du monde. On écoute quelques mots de Anne Aymon rencontrée au Festival de Cannes. Votre film, on peut l'aborder comme ça, il traverse plusieurs genres, politique, apocalyptique et surtout la comédie romantique. Voilà, c'est un dosage un peu particulier. Parlez-nous de ce choix.
C'est un dosage risqué, je dirais, mais qui fait partie du projet du film, puis je pense qu'il est à prendre ou à laisser. Au départ, j'avais envie de raconter une histoire d'amour parce que j'allais pas très bien, puis j'avais besoin de tendresse puis de connexion, puis c'est comme ça un peu que cette histoire-là est arrivée. Puis le personnage d'Adam, le personnage principal du gars, en fait, me ressemble énormément. Et moi-même, je suis très confuse par le monde dans lequel on vit. Je vraiment, le plus ça va, plus je me dis « Ah, waouh, ça va être compliqué, là, tout ça, là, les changements climatiques, l'intelligence artificielle. » Moi, je pense que je suis pas la seule, là. Mais au lieu de s'apaiser, finalement, en avançant en âge, je comprends, je me sens de plus en plus dépassée par les événements. Donc, j'ai voulu faire un film un peu confus et dépassé par les événements qui essaient d'osciller entre plusieurs tons, entre films catastrophes, romances, drames familiales même.
Qu'est-ce qui vous amène ici, Monsieur Tremblay?
Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien.
Et ils promènent les chiens des voisins, c'est un job de petite fille de 9 ans.
Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît?
On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres, comme...
Pas de blonde, pas d'enfant, pas de cash.
Il essaie de se soigner, parce que manifestement, effectivement, c'est quelqu'un qui pourrait être un peu dépressif. Et donc, il va voir sa psychiatre, et c'est là où il déballe tout. Plutôt que de parler de lui, il parle du monde. Voilà, il y a vraiment ça que vous avez voulu, c'est-à-dire comment le monde peut altérer, finalement, l'état d'un individu.
Oui, mais pour moi, il y a un mélange de deux choses là-dedans. En fait, c'est comme une roue qui tourne. C'est-à-dire que Adam, pour moi, il est chez la psy, il est incapable de parler de lui-même, comme beaucoup d'hommes autour de moi d'ailleurs. Là, il y a une difficulté vraiment à parler de ses sentiments, puis de ce qui l'habite, puis de ses névroses à quelque part. Fait que c'est une belle façon de détourner les sujets, des trucs qui lui font vraiment mal intimement, d'une part. Puis d'autre part, tout ce qui déballe, c'est absolument vrai, puis c'est absolument anxiogène. Et je pense que ça dit un peu aussi que le monde nous rend malades.
En gros, c'est ça. Ça va bien. Là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant.
My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp?
This is great customer service. Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations.
Je ne parle pas de français, I'm sorry.
Parlons de ce qui engage votre personnage, Adam, voilà, votre personnage principal, de ce qui l'engage vers Tina, c'est la voix d'une hotline. Ça me paraissait une difficulté déjà, hein, parce que aller de la voix, c'est-à-dire d'une conversation téléphonique à la rencontre, c'est déjà un pas. Et puis il y avait l'autre pas, c'est qu'on apprend assez vite, finalement, que cette Tina, elle est mariée. Mm-hmm. Voilà.
Il y a une vraie partie de comédie romantique dans le film, mais sans l'être tout à fait. T'sais, ça brise quand même un peu les codes de la comédie romantique. Là, juste la fin du film, c'est pas tout à fait typique de « on s'embrasse devant le coucher de soleil ». Là, c'est complètement autre chose. Je voulais peut-être qu'on pense pendant la première demi-heure du film que Tina n'existe pas, que c'est une voix, que c'est une intelligence artificielle, que c'est à la « her ».
On y pense.
On y pense, mais oui, c'est ça. Et je voulais jouer un peu sur ça, que ce soit juste une voix. Puis très vite, j'ai aussi eu envie que ce soit quand même une vraie histoire d'amour. Et je me suis dit, ouais, mais quand même, dans une vraie histoire d'amour, l'autre personne, dans ce cas-ci la femme, elle peut pas être là que pour Adam, puis que pour écouter Adam. Puis il faut vraiment qu'elle ait sa vie, ses problèmes, parce que c'est...
Et ses enfants.
Et malheureusement pour Adam, ses enfants. Dont elle... Puis j'aimais bien aussi le côté montrer cette femme-là. C'est rare qu'on le fait au cinéma. Là. C'est une femme qui approche de la cinquantaine et qui tombe amoureuse. Je ne sais pas combien de temps leur histoire va durer après le film. C'est pas de ça que ça parle, mais j'aime bien cette espèce de folie de voir une femme tout quitter pour une histoire de désir.
Is this the end?
I really don't know.
C'était Anne Aymon, la réalisatrice de Amour Apocalypse, actuellement dans les salles. Matt Damon et Ben Affleck devant la caméra et à la production d'un pur produit Netflix. Nous parlons de The Reap.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Quand on découvre un réalisateur qui nous marque avec un premier long métrage introductif fort et qu'il peine par la suite à se créer une véritable place et à construire l'œuvre que l'on aimerait être à l'image du talent que l'on a perçu, arrive parfois le film qui va permettre de se faire une idée précise de ses capacités. The Reap est probablement celui qui va enfin asseoir définitivement ce qu'est véritablement le cinéma de Joe Carnahan. Joe Carnahan, ce fut d'abord un immense espoir du renouveau du polar au début des années 2000 avec le brillant Narc, produit par Tom Cruise et son associé Paula Wagner en 2002, il fit un tel effet qu'il fut salué par William Friedkin, le papa de French Connection et Police Fédérale Los Angeles en personne. Un temps pressenti pour mettre en boîte des véhicules à la gloire de l'interprète de Maverick, on a vite compris que certains différents créatifs évoqués lors de projets avortés témoignaient de la difficulté de l'homme à travailler en groupe et donc de plier sa vision des choses, à l'image de certains flics de The Reap dont il est question aujourd'hui.
Il y a du nouveau, alors on a encore quelques questions. Quand on vous a parlé la dernière fois, voilà ce que vous nous avez dit. Votre unité gère le trafic de drogue, la cam, les flingues. La plupart du temps, vous faites des saisies, surtout du cash.
Il n'y a aucune drogue ici.
Le chien nous signale pas de la drogue, mais de l'argent.
The Reap nous plonge dans un aspect pas toujours exploité dans le polar, celui de l'argent généré par le trafic de drogue et les procédures en place lorsqu'on fait une prise juteuse. Inspiré de faits réels qui parlent de la saisie d'un important magot dissimulé dans un lotissement à la suite d'un appel anonyme, il va être question de la moralité des hommes et femmes chargés de récupérer le pactole, mais aussi de corruption. Car comment ne pas céder à l'appât du gain lorsqu'on tombe sur autant d'argent sale, alors qu'on peine à boucler les fins de mois tout en s'ennuyant à payer ses impôts et à tout simplement être, comme le citoyen lambda, honnête. Pour certains, la solution de facilité est une tentation terrible qui réparerait une injustice cosmique, mais qui remettrait complètement en cause la loyauté qui va de pair avec le badge. Ce dilemme va se poser à une brigade d'intervention qui va rapidement se suspecter et lentement se déchirer, tout en voyant la menace des trafiquants propriétaires de l'argent se rapprocher de plus en plus, transformant la descente de police en huis clos paranoïaque et musclé. Alors ce postulat de départ est clairement à mettre en parallèle avec la situation de Carnahan dans l'industrie du cinéma. Est-ce légitime de toucher plein d'argent en faisant des films inoffensif, contrôlé par les studios, ou est-ce encore judicieux de se battre parfois en vrai rebelle contre une industrie qui fait passer le pognon avant l'audace, le talent et l'intégrité artistique? Alors il est sûr qu'il y a moins de flingues dans les bureaux d'Hollywood, quoique...
Le tuyau, il donnait quelle somme? 300 000 dollars. Il y en a pour 20 millions là-dedans. Ça serait tellement plus facile de se tirer avec le fric. Non mais sans déconner...
The Reap doit beaucoup à un réalisateur en particulier, c'est John Carpenter. Tout d'abord, Assaut, son fabuleux huis clos de 76, où quelques policiers et criminels enfermés doivent unir leurs forces pour résister à l'assaut du commissariat où ils sont retranchés et isolés pendant toute une nuit. The Reap reprend l'action, l'unité de temps et l'équivalent de quelques personnages pour une nuit des longs couteaux parfumés au calibre 12. Le second modèle de Carnahan est indéniablement The Thing, son chef-d'œuvre de 82 où les membres d'une expédition arctique, enfermés dans un laboratoire étroit pour ne pas mourir de froid, se suspectent tous d'être lâches. Chose, un extraterrestre carnassier qui peut prendre la forme de n'importe qui et ainsi semer le doute dans les rangs de plus en plus parsemés des humains. Modèle indétrônable de film paranoïaque, la mécanique de The Thing est ici réemployée pour mieux diviser les policiers entre eux et pour le spectateur qui doute de tout le monde avant qu'un troisième acte ne révèle le poteau rose en passant à la seconde question action tonitruante.
Vous devriez prendre le fric et vous barrer avant que ça tourne très mal pour tout le monde.
Ça vaut pas le coup de mourir, vous avez 30 minutes pour dégager de cette maison.
Tout ce qu'on fait ici, et tous ceux à qui on parle, c'est capital. Plus on reste ici, plus c'est tendu par notre gueule. Tu crois que je veux détourner le fric ?
Je te fais pas confiance sur ce coup-là, alors on a un problème !
Qui d'autre veut récupérer l'argent ?
20 millions de dollars ! Qui, à ton avis ?
putain de merde !
The Rip, mis en scène mais aussi écrit par Carnahan, atteint ses limites en faisant durer un peu trop certaines situations, s'embourber des personnages de façon répétitive et devient très laid lorsqu'il s'agit de filmer l'action, ce que l'on avait déjà remarqué des Narcs dans un aspect bien plus modeste. Alors il signe définitivement les limites de son auteur qui ne refera probablement jamais mieux que Narc et surtout le territoire des loups qui effaçait intelligemment l'action pour mieux nous plonger en pleine introspection survivaliste et philosophique lors de ses moments les plus tendus. Peu de philosophie dans The Rip, mais un spectacle un peu plus enjoué que d'habitude de la part d'une plateforme, malgré un budget énorme qui aurait pu donner naissance à 3 ou 4 chefs-d'œuvre si les 100 millions avaient été donnés à John Carpenter.
100 millions, ah oui, bon. Alors, je pense que c'est un film honnête qui met tout un tas de petits indices quand même. Une fois que le film se termine, on se dit ah mais oui, il y avait ces indices qui ont été disséminés. Enfin, c'est plutôt bien joué.
Oui, c'est bien mené.
Voilà. Mais voilà, ça se regarde. Donc sur une plateforme qui est Netflix. Nous parlions de The Rip. Dans le nouvel opus de 28 ans plus tard, les survivants eux-mêmes deviennent la plus grande menace pour l'humanité. Nous en parlons maintenant.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Quand les contaminés attaquent, qu'est-ce qu'ils voient ?
Seulement 6 mois après la sortie de 28 ans plus tard, réalisée par Danny Boyle, le Temple des Morts arrive déjà sur les écrans. Un rythme effréné pour cette trilogie qui assume pleinement sa continuité. Aucun saut temporel, le récit reprend exactement là où il s'était arrêté lorsque le jeune Spike, échappé de son île, était recueilli par une bande de jeunes marginaux à la perruque blonde. L'intérêt du cinéma post-apocalyptique, y compris dans sa déclinaison infectée ou zombie, réside rarement dans l'accumulation de combats ou d'effets gore. Lorsqu'il se détache du pur spectacle, il devient un espace politique. C'est précisément ce que cherche ce nouveau volet, confié non plus à Boyle, mais à Nia DaCosta, qui a fait Candyman de Marvels, et donc qui déplace le regard.
Ceci est un monument aux morts. Donc, tout ça, c'est vous?
En effet.
Vous êtes le malin?
Le malin ?
Vous parlez de Satan ?
Oui. Le malin lâcha les esprits du mal dans le monde des humains. Et sous le joug des démons, le monde des humains s'affaiblit.
Dans le Temple des Morts, les infectés cessent d'être le centre du récit. Les attaques existent, mais restent brèves. Le film s'intéresse donc davantage à la frontière mouvante entre humanité et barbarie en suivant deux trajectoires opposées. D'un côté, Jimmy Crystal, gourou adolescent persuadé d'être le fils de Satan, qui entraîne une jeunesse désœuvrée vers une violence ritualisée et spectaculaire. Alors, ces séquences parmi les plus choquantes du film, elles le sont vraiment, interrogent moins la peur que la fascination pour le mal. À l'opposé, le docteur Ian Kelson, incarné par un Ralph Fiennes spectral, tente de restaurer une forme d'humanité chez les infectés. Son ossuaire monumental, qu'on avait déjà vu dans le précédent volet, et sa relation avec Samson, un zombie alpha, déplacent le film vers une méditation troublante sur le soin, la mémoire et la dignité des morts. Une empathie réconfortante quasiment. Le parallèle est clair, là où Jimmy Crystal efface les individualités, Kelson tente de les reconstruire.
Je me rappelle certains détails. De gens, de faits marquants. Le monde avait son fonctionnement.
C'est quoi ton nom ?
Spike.
Non, non, je crois que tu t'appelles Jimmy. Les fondements nous semblait inébranlable.
Si pour les infectés, la méthode médicamenteuse semble pouvoir fonctionner, elle s'avère bien plus complexe donc pour des survivants du type Jimmy Crystal. C'est là le nœud dramatique de ce 28 ans plus tard qui recèle des séquences de violence à leur très premier degré, tout en les mettant en scène de manière réflexive. Le docteur s'amuse à prendre les traits du diable sur fond d'Aaron Maiden, et oui, Guillaume, dans un déluge de feu et de pyrotechnie vraiment bluffant. La musique est d'ailleurs étonnante. Le personnage du docteur convoque les années 80 parce qu'il essaie de revenir dans le passé, de se souvenir ce que c'était que la civilisation en fait. Il revient dans les années 80 et 90 avec Duran Duran et Radiohead. L'excellente bande originale est-elle encore signée Hildur Guðnadóttir, je crois, l'Islandais, voilà, et elle est plutôt remarquable. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, judicieusement écrit par Alex Garland, frappe juste dans sa description d'une humanité qui, livrée elle-même, est capable de devenir son pire ennemi, un thème certes récurrent dans le cinéma post-apocalyptique, mais qui trouve ici, grâce à la mise en scène de Nia DaCosta, un éclat singulier. On en viendrait presque à regretter que le prochain opus soit repris par Danny Boyle.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et on aura deux interviews. Tu en auras une, Sophia.
Oui, j'aurai eu l'occasion de rencontrer les réalisateurs du documentaire Howard Zinn, une histoire populaire américaine 2.
Et moi, j'aurai le plaisir de vous faire entendre le réalisateur d'un titre assez étonnant qui s'intitule Bézenville. Et toi, Guillaume, trois films.
Oui, je parlerai de Gourou, de Nuremberg et peut-être de Dream si on a le temps.
À la semaine prochaine.